Bienvenue à tous, c'est Thierry qui prend la parole. Nous sommes en retard de 3 minutes, nous sommes en train d'essayer de joindre tout le monde pour pouvoir commencer l'appel. Merci. Thierry prend la parole. Nous allons commencer la téléconférence d'aujourd'hui. Je vais commencer l'appel. Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue à la téléconférence mensuelle de la CRALO. Nous sommes le 20 juin 2016, il est 23h UTC. Sur cet appel, nous avons Emmanuel Alcantara, Fontane. Merci Ricardo Forquet. Aile Nombla, Christian Cassel, Alberto Soto, Alberto Carrasco, Marisa Higuero, il n'y a personne sur le canal français et sur le canal anglais. Sur le portugais, nous avons Marine André. Nous avons les excuses de Carol Travel, Ariel Tranda, Javier Adgueri, et nous avons Sylvie Ivanko et moi-même Thierry comme personnel de l'ICANN. Sylvia, notre interprète de portugais est Bettina et nos interprètes de français sont Camélia et Claire. Je rappellerai à nos participants de donner leur nom avant de prendre la parole, pour permettre aux interprètes de vous identifier sur l'autre canal. Et maintenant, je vais donner la parole à Alberto pour commencer. Alberto, vous avez la parole. C'est Umberto Carrasco qui prend la parole. Bonjour à tous. Nous allons commencer notre téléconférence mensuelle. Je voudrais d'abord savoir si vous m'entendez correctement. Bien, si c'est le cas, nous allons commencer par adopter notre ordre du jour. Je vais donner la parole à Maritza, qui va lire cet ordre du jour. Allez-y Maritza, vous avez la parole. Maritza Agüero prend la parole. Merci beaucoup Umberto. Bonjour et bonsoir à tous. Maritza Agüero, est-ce que vous m'entendez? Bien, parfait. Merci. Merci. À nouveau, nous allons commencer donc notre réunion, la révision de la consultation publique par Wanda Scartezzini qui va parler des différentes politiques, qui va nous parler des politiques qui ont été développées au sein d'ALAC. Ensuite, nous allons faire une présentation sur la cybersécurité pour l'Amérique latine et les perspectives et les défis. Ensuite, nous aurons la présentation du plan de mitigation pour la CRALO qui sera fait par Rodrigo Saucedo. Ensuite, nous entendrons la présentation du nouveau groupe de travail pour les utilisateurs d'Amérique latine et des Caraïbes qui est ouvert à toutes les personnes intéressées et qui sera présenté par Alberto Soto. Ce point de l'ordre du jour sera modéré par Umberto Carrasco. Ensuite, nous présenterons l'état du groupe de travail en cours et des données pour les membres de la communauté, de leur mise à jour. Ce sera moi qui le ferai. Ensuite, nous passerons au processus de médiation de la CRALO. Et ensuite, à la fin de notre appel, nous aurons les divers. Umberto, vous avez la parole. Umberto Carrasco reprend la parole. Merci beaucoup, Maritza, pour cette mise à jour. Je voudrais savoir si Wanda est déjà connectée à l'appel et si elle peut commencer. Oui, je suis là. Très bien, Wanda. Donc, je vous donne la parole et je vous laisse nous parler de la consultation publique de ALAC. Allez-y. Wanda Scartezzini prend la parole. Bien, parfait. Je vais vous montrer ma présentation sur l'écran. Je vais vous parler des points importants, des points qui peuvent nous intéresser. Est-ce que nous pourrions, s'il vous plaît, et télécharger la présentation sur l'écran? Très bien, on y va. Bon, alors je vais vous parler des points importants pour la Kralo. Vous voyez la présentation sur l'écran. Je vais parler de ces points. Le point le plus important, et je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà, est le budget qui a été approuvé. Et nous avons certains thèmes qui sont très intéressants dans le cadre de ce budget. Nous avons une session à Hyderabad et à Copenhagen, l'équipe de l'ALAC, l'équipe de leaders de l'ALAC et les leaders des RALO vont se réunir. Il y aura une journée de plus à notre réunion donc d'Hyderabad et à celle de Copenhagen le samedi. Ensuite, nous aurons une session de développement qui a été approuvée pour Hyderabad et cette session se tiendra le vendredi après-midi pour les membres d'ALAC et pour les membres d'ALAC en général et les nouveaux membres aussi. Et notre objectif ici est d'avoir une session spéciale après la réunion de Hyderabad. Ensuite, un autre point important est lié à l'approbation des 2 000 $ pour les RALO. Et la session de formation des compétences sur l'IPv6 a été approuvée aussi, c'est important. Et ça a été octroyé à RightMe. L'autre point qui a été approuvé et qui est important est le budget qui nous permettra de résoudre le problème de les problèmes de traduction et automatique pour la Kralo, parce que la traduction, le système de traduction automatique que nous avons n'est pas très bon, et parfois lorsque nous parlons en anglais et que nous le traduisons, et ce n'est pas correct, ce n'est pas bien compris. Ensuite, au niveau de la flexibilité pour utiliser les créneaux de voyage, cela a été approuvé. Et donc, si vous ne pouvez pas vous rendre à un endroit, ce créneau peut être utilisé pour une autre personne, pour que cette personne participe à une réunion ou une autre réunion. Par exemple, pour Helsinki, nous avons sélectionné Dev. Il y a certaines opinions là-dessus, sur ce point-là. Et nous devons tenir compte aussi du fait que si cette personne dirige un groupe, si elle participe activement, c'est grave. Mais bon, de toute façon, c'est une manière de participer davantage aux différentes activités et de ne pas perdre un créneau et de pouvoir envoyer quelqu'un. Ensuite, nous avons un nouveau plan de mitigation. Et Umberto va nous parler de ce plan de mitigation plus tard, donc je n'en parlerai pas plus. Et puis, dans le groupe de travail des nouveaux GTLD, il s'agit de procédures, un groupe de travail qui travaille sur les procédures, puisqu'il s'agit d'un groupe qui va aborder différents thèmes qui sont liés au nouveau GTLD et aux procédures à suivre dans le futur. Donc vous avez un lien, nous avons réalisé une enquête qui sera publiée et nous sommes maintenant en train d'essayer de recueillir des informations pour pouvoir continuer cette activité et connaître les différents types de problèmes que les utilisateurs affrontent actuellement, etc. Bien, donc le travail de la GNSO, vous le trouvez sur le lien qui a été fourni ici. Vous avez un calendrier aussi. Et si cela vous intéresse, si vous voulez participer, vous pouvez consulter ce calendrier. Le prochain point est le groupe de travail sur la confiance des consommateurs. Et c'est la confiance est pour les consommateurs. Cela a été discuté à différentes occasions il y a des marchés qui ne sont pas bien développés ou pas bien desservis. Et c'est un projet qui concerne la confiance des consommateurs, la concurrence, le choix des consommateurs. Et en même temps, ce projet est lié à la protection pour protéger et donc les droits des consommateurs, etc. Bien, ensuite nous avons les activités et le travail lié aux candidatures de nouveaux GTLD et au processus d'évaluation. Ce groupe aura une réunion face à face au mois de septembre, nous ne savons pas encore où, donc nous ne pouvons pas vous le dire. En ce qui concerne la transition des fonctions IANA et les problèmes de redevabilité ou de responsabilité, sur ce lien que je vous donne sur cette diapo, vous pouvez trouver des informations portant sur ICANN. Et Et l'interprète dit qu'elle n'entend plus Vanda. Ah, revoilà Vanda. Donc, nous avons une page Internet, une page web pour les statuts. Je peux vous envoyer ces informations si ça vous intéresse. Je peux vous envoyer toutes ces infos avec les changements qui vont être faits, les amendements et qui vont être faits au statut constitutif de l'ICANN. Maintenant, nous allons parler de l'évaluation faite pour la CRALO qui sera discutée et qui discutera le commentaire de Jean-Jacques. Le commentaire de Jean-Jacques était « Cela va être très intéressant pour tous les utilisateurs ». Dans ce cas-là, nous allons trouver des informations portant sur la réponse du gouvernement américain et le fait que les utilisateurs finaux ont donné et ont fait ces propositions, les ont présentées au gouvernement américain. Et ensuite, nous parlerons des choses qui manquent. Nous parlerons de la législation, de la transparence, de la durabilité et ce groupe de travail a déjà et réalisé une évaluation tout à fait positive de ce travail. Il y a d'autres thèmes qui ont été discutés. Certains sont liés au GAC. Pour la réunion d'Helsinki, nous avons une personne, nous aurons une personne qui sera responsable de participer ou d'assister aux réunions du GAC. Tout cela a été décidé il y a très peu de temps, il y a eu juste une semaine, donc nous n'avons pas eu le temps de passer au vote et donc nous devons demander au groupe de travail d'en tenir compte, de demander au président et au vice-président de prendre une réunion et cette décision sera prise en compte. Uro a été sélectionné pour participer parce qu'il habite à Helsinki et qu'il est membre du forum, de certains forums internationaux de différentes organisations. Donc il a été sélectionné pour assumer cette fonction de membre pour représentant le gouvernement finlandais. Donc, Uro est sélectionné dans ce sens. Et pour la prochaine réunion, pour notre prochaine réunion de l'ICANN, il y aura un groupe de travail qui sera sélectionné, qui devra à son tour nommer les personnes qui veulent participer de façon à ce que nous ayons une bonne participation au niveau du GAC. Ensuite, et pour ce qui est de ces propositions, nous avons des propositions qui ont été faites pour un membre du conseil de l'ICANN et pour le leader de ALAC. Donc nous allons discuter de ces informations lors de la réunion d'Helsinki. Et un autre point important, très important pour nous, est la création d'un groupe de travail avec Rignalia, hein, qui appartient à ALAC, comme vous le savez. Ce groupe de travail va travailler sur la gouvernance de l'Internet de façon à avoir à participer davantage dans ces questions liées à la gouvernance de l'Internet. Et pour nous, ce sont des thèmes très importants. Et c'est la même chose, un groupe de travail qui travaille sur la participation et la sensibilisation qui a été créé. Et ce groupe de travail sur la participation et la sensibilisation va devoir expliquer ce que nous pensons faire à Helsinki et dans le cadre donc de la sensibilisation et de la participation. Helsinki est une réunion de type B et cette réunion de type B se focalise principalement sur les questions politiques et sur ce type de questions. Hein. Et sur la sensibilisation. Donc ce groupe de travail sur la sensibilisation et la participation travaille à différentes activités pour faire venir des gens, des universités, pour que les gens puissent participer et connaître ICANN. Et notre objectif ici est de faire de la sensibilisation. Nous savons que dans ce pays, le pourcentage, le niveau de connexion est très élevé, mais comme cela avait été prévu pour Panama et comme il y a eu un changement de lieu pour notre réunion, ces activités auront lieu quand même. Hein. Donc nous aurons cette interaction avec des gens et qui aura lieu à Helsinki. Nous travaillerons avec différents groupes de travail, avec d'autres membres, et des membres de différents groupes de travail, et cela sera bien sûr lié à ICANN et au travail d'ICANN. Hein. Bien. Et le dernier point important que je voulais aborder porte sur notre réunion d'Helsinki pour vous dire que nous aurons, et vous pouvez télécharger ces infos pour les avoir hein, dans votre ordinateur, nous allons organiser un calendrier avec tous les événements et vous pourrez trouver ces informations sur ce calendrier. Je vous donne le lien. Le lien pour Atlarge n'est pas encore prêt, mais vous pouvez voir ces informations sur ce lien hein, et vous aurez toutes les infos concernant ALAC. Vous verrez toutes les réunions et tous les événements qui vont avoir lieu pendant donc la réunion de Helsinki. Est-ce que vous avez des questions hein? Si vous avez des questions, dites-le-moi. Et je vous remercie tous. Je pense que cette présentation peut aussi être téléchargée. Il suffit de demander à Maritza et qu'elle nous l'envoie. Et d'ailleurs, elle a dit qu'elle le ferait. Merci beaucoup. Bien, je vais maintenant donner la parole à Maritza ou à Umberto, voyons, qui veut la parole. Maritza reprend la parole. Merci beaucoup, Wanda. C'est Maritza qui prend la parole. Donc, merci pour votre présentation, Wanda. Bien, alors maintenant, Raïtme va prendre la parole. Est-ce que Raïtme, vous êtes avec nous? Oui, c'est Raïtme qui prend la parole. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir à tous, c'est Raïtme qui prend la parole. Ah, Marita D'accord. Maritza reprend la parole. Ah bon, allez-y, allez-y. Donc, Raïtmé prend la parole. J'ai un problème de connectivité. Je suis en train de voir si ma présentation peut être téléchargée. Maritza prend la parole. Sylvia prend la parole. On vous entend, mais vraiment, votre voix est très faible, s'il vous plaît. Parlez un petit peu plus fort. Est-ce que ça va mieux maintenant? Bien, on y va. Donc, nous allons... je vais commencer ma présentation. Bonsoir à tous. Bonjour à tous, je suis membre de ISOC, de la LS de ISOC. Et je crois que ma présentation est téléchargée. Ok, donc je commence. Je vais vous présenter. Et ce qui a été fait dans le domaine de la cybersécurité dans la région latino-américaine et des Caraïbes. Il s'agit d'un travail et d'introduction pour vous mettre au courant de ce qui se passe dans notre région et faire connaître la situation locale telle qu'elle est. Je commence. La plupart des pays développés dans le monde possèdent des stratégies de sécurité cybernétique, et qui comprennent les aspects économiques, sociaux, éducatifs, juridiques, et l'application de la loi technique, diplomatique, militaire est liée au renseignement. Les considérations de souveraineté dans l'élaboration de politiques de sécurité cybernétique sont de plus en plus importantes et on constate cela à différents niveaux du gouvernement dans le domaine de l'élaboration de politiques. Un des aspects importants, c'est que plus nous échangeons avec les TIC, plus nous avons de problèmes liés à la sécurité en ligne. D'autre part, cette tendance vise à avoir de plus en plus d'exigences obligatoires et cela est justifié par les besoins de sécurité dans la région, mais aussi l'anonymat et la liberté d'expression si les limites de rétention de données et l'utilisation des données conservées ne se basent pas sur des principes tels qu'ils devraient être. Nous avons affronté une situation dans nos pays qui limitait énormément nos libertés. Cependant, les objectifs des stratégies de sécurité cybernétique sont protéger la société face aux menaces cybernétiques, y compris le vol d'identité, le hameçonnage, etc., et encourager la prospérité économique et sociale dans un contexte dans lequel les principales activités se basent sur l'utilisation de technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire éthique. Cependant, lorsque l'on parle des droits de l'homme et du respect de ces principes, sont très importants et doivent être renforcés dans notre région. Je vais maintenant vous parler des tendances en Amérique latine et aux Caraïbes. La conscience sur l'importance du développement des stratégies de sécurité cybernétique augmente dans les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et les pays dans ce domaine qui jouent un rôle important et qui ont déjà une stratégie mise en œuvre sont la Colombie, la Jamaïque, le Panama et Trinité et Tobago. D'autres, j'ai pu participer en 2014 à Trinité et Tobago à des séminaires et j'ai étudié là-bas et je vois comment ils développent leurs principes de base. Il y a d'autres pays qui sont encore en processus de développement, en cours de développement, comme le Costa Rica, la République dominicaine, le Pérou, le Paraguay et d'autres. Le niveau de maturité de ces stratégies dépend en termes de un cadre fourni pour la coopération entre les organisations gouvernementales et les acteurs externes. Comme par exemple les organisations qui s'occupent des problèmes techniques. En Amérique latine, cela n'a pas été développé suffisamment et c'est ce qui nous permet d'avoir différentes plateformes, y compris différents développements que nous pouvons avoir au sein des gouvernements. Dans les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, on peut encore avoir des problèmes de cybersécurité qui vont du problème militaire à d'autres types de problèmes. La coopération entre les parties prenantes est importante dans beaucoup de pays d'Amérique latine. On trouve par exemple la création d'équipes de réponse aux incidents de sécurité informatique, le CSIRT, qui est devenu important dans la région. Il y a quelques pays qui n'ont pas ce type d'organisation, qui en sont dépourvus, les OES. Et des organisations comme ISOC travaillent encore dans des pays où nous n'avons pas encore ces équipes et de réponse. Et ces équipes doivent être créées, et nous pourrons en parler dans notre rapport semestriel. La collaboration entre les CSIRT nationales a permis un échange de connaissances et de bonnes pratiques, ce qui a donné lieu à la création de systèmes de coopération, de communication plus sûrs et plus robustes. L'amélioration des compétences nationales est importante pour augmenter la confiance dans les services numériques publics et privés qui permettent de travailler dans un environnement plus sûr. Nous allons maintenant vous parler des défis qui existent en Amérique latine. Premier point est définir le cyberdélit. Il est important de prendre le cas du Brésil.
Suivant les lois brésiliennes qui avaient différentes dispositions concernant la cybersécurité, il y avait beaucoup de cas de délinquance de cybersécurité. Donc, il y a eu un cadre juridique qui a été créé pour assurer la cybersécurité, mais le gouvernement a un point de vue complètement différent. C'est-à-dire que, au lieu de créer une loi pénale, il fallait créer des responsabilités et des mécanismes qui permettent d'assurer la sécurité sur Internet. C'est ce qui a été approuvé comme cadre civil d'Internet qui porte sur des sujets de protection des droits fondamentaux en ligne, comme par exemple pour la neutralité du net et les responsabilités du secteur public et concernant la rétention de données. Vous pouvez télécharger la version de ce cadre civil en anglais à partir du lien qui est partagé sur la présentation. Une autre question est la préoccupation de la protection de la vie privée en ligne et des données personnelles. Suite aux révélations de Snowden en 2013 et sachant qu'il y avait beaucoup de données personnelles qui ont été exposées, on s'est rendu compte qu'à travers Facebook ou à travers les services de courrier électronique, nous avons créé une identité numérique. Nous créons des métadonnées qui sont traitées au niveau professionnel, au niveau personnel, et cela a un impact sur la vie et la réputation des personnes. Vu que l'Internet est essentiel pour le développement socio-économique de l'Amérique latine, les conséquences de ne pas protéger l'Internet pourraient avoir un impact sur la confiance des personnes aux activités en ligne, ce qui a potentiellement des conséquences négatives pour l'économie sur Internet et la société dans son ensemble. C'est-à-dire que le service de l'Internet ne serait plus fiable, étant donné que les personnes ne feraient pas confiance au réseau. Cependant, cela pourrait potentiellement avoir, comme je disais, des conséquences négatives pour les économies en émergence. Voici les recommandations que nous avons formulées. Ces recommandations, attention, ne comprennent pas les différentes questions qui portent sur l'équilibre entre la sécurité et la protection des droits de l'homme. Cependant, le fait que nous puissions réjouir de droits de l'homme en tant qu'utilisateurs de l'Internet est un devoir que nous devons tous protéger, tant les gouvernements que la société civile et le public en général. Certaines questions essentielles ont été traitées, bien sûr, afin de garantir la protection de ces droits. Et les questions relatives à la sauvegarde de ces droits sont également traitées en ce moment. Donc ce qui est important en tant que recommandation est de définir et de faire respecter les cadres de réglementation de la protection de données et de vie privée qui soient appropriés. C'est-à-dire qu'il est essentiel d'équilibrer la sécurité avec la nécessité de sauvegarder de manière appropriée les droits des individus. En même temps, il faudrait approuver et mettre en application des cadres de protection de données et de la vie privée qui soient appropriés pour arriver à ce but. Et il est également nécessaire d'équilibrer les coûts et les bénéfices des dispositions de rétention de données. Il faut commencer à travailler sur les différents aspects de cette disposition dès maintenant. Une autre recommandation est la création de plateformes nationales multisectorielles qui soient durables. Cela est un aspect également très important et c'est un avis que l'ICANN partage. Il y a différentes réglementations qui sont discutées par le modèle multipartite afin de définir des aspects tels que les conséquences et la viabilité technique et juridique de cela. Mais les différentes parties prenantes pourraient élaborer un cadre orienté vers l'avenir pour que tout le monde puisse apporter sa perspective dans les différentes régions en matière de sécurité sur Internet et pour collaborer dans la conception d'un cadre de réglementation tel que celui du nuage, du big data ou de l'Internet comme on a aujourd'hui, et considérer l'impact de nouvelles technologies sur ces systèmes. Centrons-nous maintenant sur une autre recommandation. La cybersécurité est de plus en plus importante. De nos jours, nous avons différents niveaux de coopération entre les gouvernements nationaux, les organisations internationales, régionales et mondiales qui travaillent sur le terrain. Donc il est important de renforcer la coopération régionale et de faciliter cette discussion dans la région. Par exemple, au Costa Rica, on aura un FGI d'ici peu qui constitue un cadre important pour cette discussion. Au Mexique, on aura également un autre FGI où nous comptons discuter de ces sujets et la prochaine semaine, nous verrons le deuxième événement de l'ICANN de l'année. Il est également important de considérer que l'Internet n'a pas de frontières et que cela est essentiel pour constituer le cadre dont nous avons besoin pour communiquer. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, j'ai inclus ici le rapport de l'OEA sur la cybersécurité. Si vous êtes intéressé par ce rapport, vous pouvez y accéder à travers ce lien. Et voici mon courrier électronique au cas où vous aurez des questions. Merci. Maritza Agüero prend la parole. Merci Raitme. Si vous avez des questions ou des commentaires, si vous voudriez faire des remarques, c'est le moment de le faire. Maritza Agüero au micro, y a-t-il des questions ou des commentaires pour Raitme? Malta au micro. Il semblerait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'écrire sur le chat. Donc, attendons un peu pour voir quelles sont leurs questions. Et c'était Marisa Agüero pour les procès-verbaux. Je vois Alfredo Lopez qui nous raconte sur le chat qu'en Colombie, ils ont beaucoup travaillé sur ces questions et qu'ils ont créé une politique de sécurité numérique. C'était une remarque, mais il pourrait peut-être poser une autre question par la suite. Voyons s'il veut ajouter quelque chose à ce commentaire. Vandas Cartesini est en train d'écrire ce qui suit. C'est un commentaire pour WriteMe. Elle dit « Je vais vous envoyer le texte final de l'approbation du cadre civil d'Internet qui a été amendé il y a 2 semaines. » C'est Marisa Agüero au micro. Apparemment, il paraît qu'il n'y a pas de questions ou de remarques pour notre présentateur. Donc nous allons maintenant donner la parole à Rodrigo Saucedo qui présentera le plan de mitigation pour la CRALO. Rodrigo, êtes-vous connecté à l'appel? Maritza au micro. Humberto, on ne vous entend pas. Pardon, Humberto, on ne vous entend pas. C'est Maritza ici qui parle. Je demanderai au personnel d'essayer de reconnecter Humberto à l'appel. Si David Vanco prend la parole, Humberto, on ne vous entend pas. Terry prend la parole. Oui, il s'est déconnecté du téléphone, mais on est en train de le rappeler. Donnez-nous un instant. Maintenant au micro. Très bien, merci Terry. J'ai une question de Alexis, de Internauta Venezuela, qui dit, merci beaucoup de cette présentation. J'ai une question pour Redmi, c'est la question suivante. Lequel devrait être le rôle des utilisateurs en matière de définition de politique publique sur la cybersécurité? Redmi prend la parole, je répondrai à cette question maintenant. Le rôle des utilisateurs est de définir la politique publique en écoutant, en analysant et en faisant des propositions. Les personnes devraient suivre ce processus parce qu'il n'est pas censé d'avoir des utilisateurs qui s'organisent mais qui ne sont pas soutenus par le reste. Il me semble que les forums nationaux, par exemple, qui ont lieu dans les différents pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, définissent un cadre en matière de sécurité, de politique publique et discutent avec les différents gouvernements. C'est-à-dire qu'il y a différents rôles qui sont appliqués, mais selon les différentes conversations que j'ai eues avec des collègues qui travaillent sur ces questions, la question actuelle ou le problème actuel est le fait qu'il y a des politiques qui ne comprennent pas ce type de politique. Donc il n'y a pas moyen de faire la différence entre les contributions et les politiques. Parce qu'ils pensent que tout est la même chose. Au moment de partager des informations, par exemple, il y a des informations qui sont confidentielles. Il est donc nécessaire de prendre compte de cela afin d'avoir des paramètres qui nous permettent d'établir les limites dans ce sens. Dans ce cas, il est nécessaire d'intégrer des utilisateurs à la discussion, des utilisateurs qui comprennent le rôle et qui suivent, qui connaissent. Merci beaucoup de cette question, Alexis. Y a-t-il d'autres questions? J'apprécie les commentaires. Je suis également prêt à partager d'autres informations avec vous que je publierai sur le wiki et que je partagerai avec le reste des membres au cas où vous voudriez avoir des informations. Maïsa Guerreau au micro. Merci Redmé. C'est Umberto au micro. Vous m'entendez, Maritza? Oui, allez-y, dit Maritza. Umberto prend la parole. Je voudrais savoir s'il y a d'autres questions pour Redmé. Maritza prend la parole. Non, je ne vois pas de main levée et je ne vois pas d'autres questions sur le chat. Umberto prend la parole. Bien, dans ce cas, je donnerai la parole à Rodrigo Saucedo qui nous présentera le plan de mitigation ou de atténuation. Rodrigo Saucedo au micro. Merci, Umberto. Bonsoir à vous tous. C'est Rodrigo Saucedo ici. Vous m'entendez bien? Maritza au micro. Oui, on vous entend bien. Rodrigo Saucedo prend la parole. Bien. Premièrement, j'excuse Rodrigo de la Parra à qui envoie ses excuses parce qu'il participe au congrès de l'Amérique latine sur les télécommunications et il n'était pas en mesure de se joindre à cet appel étant donné qu'il est au Mexique en ce moment. Aujourd'hui, je présenterai un résumé de ce plan d'atténuation pour la région Amérique latine et Caraïbes. Pour commencer, je voudrais vous raconter que la semaine dernière, nous avons eu un séminaire web en ligne au cours duquel nous avons présenté ce plan d'atténuation aux autres communautés. Si vous avez intérêt à écouter l'enregistrement audio ou à regarder les vidéos, vous pourrez télécharger la présentation et les enregistrements en anglais et en espagnol. Je voudrais maintenant vous expliquer pourquoi nous avons ce plan d'atténuation. Ce plan a été créé en vertu du changement de région des réunions d'Amérique latine, étant donné qu'on allait avoir deux réunions dans notre région, au Panama et au Porto Rico, qui ont été reprogrammées ailleurs. Donc l'idée de changer les réunions de région pourrait avoir un impact négatif pour l'Amérique latine et pour les Caraïbes. Lors de notre séminaire web de la dernière semaine, on a eu Sally Costerton qui a précisé que cette décision n'est pas prise de manière unilatérale, mais plutôt qu'il s'agissait d'une décision qui a été considérée et discuté qu'il a été très difficile de prendre la décision de reprogrammer les deux réunions qui auraient lieu en Amérique latine. Mais l'idée était de prendre compte de la situation dans la région également. Ce que vous voyez en ce moment sur l'écran vous montre nos prochaines réunions. Cette diapo a été présentée par Nick Tomasso qui intègre l'équipe de réunion de l'ICANN. Et comme vous voyez, en 2017, nous n'aurons pas de réunion en Amérique latine, mais en 2018, par contre, nous aurons ICANN 61 qui devrait être tenu au Puerto Rico. Cela est presque défini. Et quant à la 62e réunion publique de l'ICANN, qui est un forum de politique, elle sera tenue au Panama comme prévu pour cette année. En 2019, nous nous réunirons en Amérique du Nord, mais pas dans la région Amérique latine et Caraïbes. Et en 2020, il y aura la 7e réunion de l'ICANN dans la région Amérique latine et Caraïbes, mais cela n'est pas défini pour l'instant. Les mesures suivantes sont prises par l'équipe de réunion, qui sont les suivantes. De conclure les négociations et les dispositions pour la réunion de mars 2018 qui sera tenue au Puerto Rico. Et de conclure également les négociations et les dispositions pour la réunion de juin au Panama. Je passe maintenant au plan d'atténuation. Ce plan est divisé en 5 points ou actions, dont le premier est de soutenir la participation aux événements de participation actuels. C'est-à-dire que l'idée est d'identifier les événements de participation clés dans la région et de fournir davantage de soutien pour que la communauté de l'Amérique latine et des Caraïbes puisse y participer. La deuxième mesure serait de soutenir la participation aux événements régionaux et mondiaux. Pour ce faire, l'idée est de fournir davantage de soutien pour les personnes de la région pour qu'elles puissent assister à certains événements régionaux tels que l'ACNIC-LACNOG, le workshop ou l'atelier de la KLD, le forum du DMS de l'Amérique latine et des Caraïbes, qui puisse également assister au FCI régional, qui sera tenu à San José, au Costa Rica l'année prochaine, etc. La troisième mesure est d'organiser des centres de participation à distance. Donc l'idée est d'organiser ces centres de participation à distance dans la région pour la 56e et la 57e réunion publique de l'ICANN. L'idée serait qu'une équipe régionale, comme par exemple au Brésil, organiserait un centre de participation et ce sera pareil dans le cadre de Sapuzi, dans le cadre de la Bolivie. Donc l'idée est d'avoir ces différents centres de participation à distance régionaux afin de permettre à la communauté locale de participer. En même temps, nous allons fournir du soutien aux personnes qui sont intéressées à organiser un centre de participation à distance dans leur propre pays. La quatrième mesure porte sur l'organisation de séminaires web et de séances informatives. L'idée ici est de coordonner des séminaires web avant la 56e et la 57e réunion de l'ICANN afin d'expliquer les sujets qui seront discutés aux réunions et afin de mettre en valeur les sessions principales de la réunion ainsi que les sujets de grande importance pour la région au niveau mondial. Il y aura également des sessions informatives et l'organisation de ces sessions est un test qui a commencé au Brésil, organisé par Banda, qui pourrait peut-être nous raconter ce qu'elle a fait pour organiser ce type de session. Il s'agit de sessions qui sont tenues immédiatement à la fin des réunions de l'ICANN et l'idée est de fournir un résumé des activités de chacune des réunions et de mettre à jour la communauté concernant les sujets qui ont été discutés au cours de la réunion de l'ICANN. Finalement, nous aurons également la présence d'experts dans la région, c'est-à-dire qu'on aura le PDG de l'ICANN et certains dirigeants mondiaux de l'ICANN également qui se déplaceront pour les différents événements de la région. Par exemple, pour le forum du TNS d'Amérique latine et des Caraïbes qui aura lieu au Costa Rica en août, le nouveau PDG de l'ICANN participera à la réunion et nous aurons également Sally Costerton qui s'y rendra. Voici donc le plan d'atténuation. Nous avons 5 mesures, comme j'ai dit. Cette présentation est déjà disponible sur la page Wiki, ce qui vous permettra d'accéder à ce calendrier qui va de juin à décembre 2016, sur lequel vous verrez les différents événements régionaux Vous y trouverez le niveau de soutien qui sera fourni par l'ICANN pour chaque événement aussi. Donc, par exemple, on aura du parrainage, des matériels de soutien, du soutien au déplacement des différents membres communautaires. Voici juin, juillet, août. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que l'idée a déjà été expliquée et l'idée principale était de soutenir les personnes afin de leur permettre de participer aux événements. En décembre, comme vous voyez sur cette diapo, nous avons la célébration du 10e anniversaire de l'ACRALO qui sera fêtée à Guadalajara, au Mexique, et il y aura du soutien de l'ICANN à travers la présence du personnel. Et il y aura également des fonds pour parrainer l'événement. Voilà, à la fin de ma présentation, je vous remercie de m'avoir permis de vous raconter ce qu'est le plan d'atténuation. Et si vous avez des questions ou des commentaires, je suis prêt. Merci. Humberto Carrasco prend la parole. Merci beaucoup, Rodrigo. Je vous donne la parole maintenant si vous avez des questions à poser. Raït me prend la parole. Bonsoir, j'ai une question. Quant au centre de participation à distance pour la 56e réunion publique de l'ICANN, que je sache, on nous avait dit qu'on aurait des centres de participation à distance. Donc, je voudrais me proposer pour collaborer avec cette initiative. Mais vu les difficultés que nous avons dans notre pays et dans nos universités pour agir en tant que centre de participation à distance, il me semble qu'il faudrait expliquer pourquoi on n'a pas pu fournir des services de connectivité à distance. Et j'ai compris que cette idée d'avoir des centres de participation à distance n'était pas possible. C'est-à-dire, j'avais compris qu'on ne pourrait pas le faire. Quand est-ce que vous avez changé d'avis? Rodrigo Salcedo prend la parole. Merci, Redmé, de cette question. Je préférerais de ne pas répondre à cette question. Je vous enverrai la réponse à travers la liste de diffusion de l'ACRALO, mais il y aura des centres de participation à distance. Cependant, permettez-moi de vérifier ces informations et je confirmerai cela à travers une réponse formelle sur la liste de diffusion de l'ACRALO. D'accord? Humberto Carrasco prend la parole. Merci beaucoup. Rodrigo. Rainer prend la parole. Vous m'entendez? Alfredo Lopez prend la parole. Oui. Je suis de la Colombie, j'ai une question. Humberto prend la parole. Oui, allez-y Alfredo. Alfredo Lopez au micro. Merci Humberto. En Colombie, nous avons organisé une journée d'Internet en mai. Et lors de cet événement, nous avons discuté de l'Internet, de la cybersécurité. Et bien sûr, nous prenons compte de la fête ou la célébration du 10e anniversaire de l'ACRALO. Comme je disais à Humberto, cet événement était un vrai succès. Donc notre idée était d'avoir un deuxième événement dans le deuxième semestre. Nous avons une université autonome et un réseau d'universités avec lesquelles travailler. L'idée serait donc d'avoir un événement qui se répète pour l'ACRALO. Rodrigo Salcedo prend la parole. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Je ne sais pas si cela a été une question ou un commentaire. Mais ce plan d'atténuation, pour que vous sachiez, n'est pas uniquement applicable à la communauté de l'ACRALO. Ce plan d'atténuation est un plan pour la communauté de l'Amérique latine et des Caraïbes dans l'ensemble et pour la communauté qui participe à l'ICANN. Donc si vous voulez organiser d'autres événements en Colombie, je dirais que il faudrait que l'on discute de cela avec l'équipe de soutien. Et je vous prie de contacter Rodrigo de la Parra et sur ce mail, expliquez-lui le type d'événement que vous voudriez organiser. Je suis sûre qu'il pourra vous répondre, étant donné qu'il est responsable de ce faire. Et c'est lui qui gère le budget pour évaluer la possibilité d'organiser ce type d'événement. Alfredo prend la parole. Merci. Maritza au micro. Merci, Rodrigo. Umberto au micro. Vous m'entendez?
Je voulais d'abord remercier Rodrigo. Umberto prend la parole. Oui, je suis en connecté. Je voulais juste faire un commentaire parce que nous travaillons actuellement et je travaille avec Rodrigo Saucedo et Rodrigo de la Parra. Nous travaillons sur un plan d'atténuation et bientôt nous aurons des questions à poser sur ce que la communauté préfère pour savoir si l'on va utiliser nos ressources pour les réunions face à face ou pour la réunion de la CRADO qui aura lieu au mois de décembre. Nous sommes allés en Uruguay. Nous avons l'Uruguay aussi comme option pour réaliser une réunion que nous pouvons réaliser avec nos élèves. Mais je pense que l'impact sera plus fort si on fait ça au Mexique. De toute façon, je comprends bien que nous allons recevoir des ressources pour cet événement en Uruguay et ce sera une réunion qui serait parfaite pour le mois de décembre. Je crois que Alberto lève la main. Alberto Soto prend la parole. Nous avons discuté il y a quelque temps la possibilité d'organiser une seule réunion, mais on peut en faire plusieurs. La première a déjà été tenue et nous n'avons pas reçu de soutien du CROP pour cette réunion. Nous pouvons organiser davantage de réunions, hein, plusieurs réunions, par exemple pour commémorer le dixième anniversaire de la CRALO. Merci beaucoup, Umberto. Il y a plusieurs réunions, et c'est pour ça que le plan d'atténuation va être mis à jour au fur et à mesure. Hein. Notre idée, ce serait d'obtenir un soutien d'ICANN et pour que les gens de la région puissent venir et participer à ces réunions. Maritza, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, organiser les questions dans la salle de chat? Maritza prend la parole. Oui. Il y a Marc qui a levé la main. Marc, s'il vous plaît, allez-y. Marc prend la parole. Merci, Maritza. Je suis Marc Datziel et je voudrais faire un commentaire concernant le plan d'atténuation. Je voudrais dire que avec NextGen 53, nous avons organisé des réunions au Brésil pour la gouvernance de l'Internet et nous voudrions faire participer les différents pays de la région aussi. Et il s'agit d'initiatives qui vont être organisées avec les jeunes, et c'est quelque chose qui nous paraît très important dans ce cas-là. Nous commençons. Hein, nous avons commencé au mois d'avril. Hein, c'était la première édition pour cette initiative. Et nous voudrions aussi annoncer à la communauté qu'il s'agit d'un projet qui est au début, qui en est qu'à son début, et nous voulons vous demander de participer. Nous vous invitons à participer. Maritza prend la parole. Merci beaucoup pour ce commentaire. Nous allons maintenant donner la parole à Aïda Noblia. Aïda, vous avez la parole. Allez. Aïda. Maritza prend la parole. Aïda, on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Aïda, est-ce que vous m'entendez? Aïda prend la parole. Et est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, allez-y, Aïda. Je voulais répéter ce que j'ai dit dans la salle de chat, dans le chat room, simplement pour préciser que nous travaillons et nous sommes en train d'organiser un événement le 30 et le 31 août à Montevideo. Nous allons aborder les problèmes de l'AICA, nous allons parler de cela. Je voudrais dire aux gens ici qui sont intéressés par le modèle multipartite que nous allons en parler, nous allons parler du nouveau rôle de la communauté, etc. Merci. Umberto au micro, il semble qu'il y ait une autre main levée. C'est toujours celle de Aïda. Aïda, non, pas de main levée. Parfait, nous. Bien. Puisque plus personne ne veut prendre la parole. Roberto Saucedo veut prendre la parole. Allez-y, Roberto au micro. Rodrigo au micro. Je voulais juste ajouter à ce que Umberto avait dit que... Et puis je voulais aussi profiter de cette occasion parce que nous avons une bonne participation du côté de la communauté de la CRALO. Et je voudrais expliquer ce qui se passe au niveau de la communauté. Et il va falloir choisir. Nous avons besoin de plans stratégiques régionaux. Il y a un projet spécifique qui vise à fournir un soutien de sensibilisation pour la CRALO. En 2005, nous avons fourni un soutien avec deux créneaux de voyage de plus pour que les gens puissent participer à deux événements de sensibilisation dans la région. Donc on a fourni ces deux créneaux pour voyager. Hein. On a proposé que deux personnes de la région puissent aller à ICANN 53 qui avait lieu à Buenos Aires, et donc il y allait y avoir plus de participation de la communauté d'Amérique latine dans cette région, à cette réunion, puisque la réunion avait lieu dans la région. Donc nous avons envoyé quelqu'un de Colombie cette année. Nous avons repris ce projet avec Maritza et Roberto, et nous avons discuté de la possibilité de... Au lieu de fournir ces deux créneaux pour voyager, de fournir un budget pour participer à deux réunions face à face qui auraient lieu dans la région. La première était ISO Amérique latine et les Caraïbes et il s'agit d'un petit événement. Excusez-moi, j'ai oublié aussi de mentionner que c'est pays n'avait pas de ALS et donc nous avons besoin de mettre en place des activités de sensibilisation dans ces régions. Donc jusqu'à maintenant, ce budget a été assigné pour des réunions en face à face dans la région, mais il existe la possibilité qu'au lieu d'organiser une réunion face à face ou d'utiliser ce budget pour une réunion en face à face, il y ait deux ALS dans la région qui puissent se rendre à l'anniversaire de la CRALO qui va avoir lieu au Mexique. Au mois de décembre avec le forum de gouvernance de l'Internet. Donc ce serait une possibilité. c'est Umberto qui prend la parole. Merci. Et c'est Umberto Caraco qui prend la parole maintenant. Est-ce que vous avez d'autres commentaires à faire? Apparemment, il n'y a pas de commentaires. Maritza prend la parole. Personne n'a levé sa main et personne n'a fait de commentaires. Umberto prend la parole. Bien, Maritza, c'est vous. Maritza prend la parole. Je disais qu'il n'y avait plus de questions ni de commentaires. Umberto prend la parole. Bien, alors passons au point 7 de notre ordre du jour. Et c'est une idée qui a été proposée par Alberto Soto. Alberto, est-ce que vous nous entendez? Bien. Alberto prend la parole. Alberto Soto prend la parole. Merci, Umberto. J'ai fait une introduction à plusieurs reprises à propos de ce groupe de travail et maintenant je vais échanger cette introduction parce qu'il y a quelques jours, ICANN a annoncé à ALAC que ICANN avait approuvé le budget pour la réunion face à face et que nous allions être informés de manière plus formelle. Olivier Crépin-Leblon est la personne qui a envoyé un email à ALAC et je vais maintenant souligner quelques points importants de ce courriel de Olivier Crépin-Leblon. Il dit qu'il y a seulement une partie de l'accord. Hein, il s'agit de l'approbation du financement des fonds hein, pour la réunion et que nous avons encore besoin de travailler de façon à utiliser correctement les fonds que nous allons recevoir pour cette réunion face à face. Nous devons travailler au niveau de chaque RALO et nous devons aussi faire entendre la voix des utilisateurs finaux. Nous devons permettre aux utilisateurs finaux de participer et de savoir, et nous devons leur permettre de savoir ce qui se passe au sein de l'ICANN. Comment ICANN met en place tout ce qui concerne la sécurité, parce que c'est l'utilisateur qui a le droit de aussi d'être au courant, de participer à ces discussions. Et l'utilisateur final ne sera pas capable de distinguer les différents problèmes dont nous parlons ici et qui sont des problèmes liés à la sécurité. Hein. Donc nous devons nous devons tirer le meilleur profit de ce que nous avons reçu, dit Olivier, hein, et avancer de façon que chaque financement du CROP soit utile. Nous devons voir si nous pouvons travailler avec le NCSG ou le NCUC ou pas. Nous devons aussi voir comment partager collectivement et laisser les problèmes qui peuvent exister et entre les organisations, les laisser de côté parce que c'est la seule manière de progresser. Hein. C'est ce qu'il dit. J'ai utilisé le budget comme si c'était mon argent et non pas comme si c'était l'argent d'ICANN. C'est la seule façon de tirer le meilleur profit de ces fonds. Hein. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas consacrer notre temps à des disputes de clochers. Hein. Nous devons essayer d'avancer. Et Olivier dit aussi que l'on ne doit pas utiliser ces rotations dans les réunions et dans les assemblées générales comme un calendrier pour les gens pour se rendre dans des endroits exotiques. Hein. Nous devons, et il s'agit d'un bien public hein, et d'une question de confiance et nous devons assumer cela. Je remercie Olivier pour son travail, mais je voudrais ajouter que notre groupe de travail voulait travailler sur ce point-là, c'est-à-dire toucher l'utilisateur final, obtenir une contribution de sa part de façon à tirer le meilleur profit de tout ce que, de toutes ces ressources que nous avons. Ce groupe a été formé, il s'agit d'un petit groupe qui, de cette façon, peut obtenir de bons résultats à court terme. Et le concept de base sont de tirer le meilleur profit des réseaux et d'ICANN. Et dans, lors du dernier webinaire, au cours duquel on a parlé de l'atténuation du problème et de l'atténuation, Rodrigo de la Parra a dit qu'il avait besoin d'un soutien technique pour avoir les meilleurs outils pour faire des présentations, chose que nous n'avons pas. Et il a dit qu'il n'y avait pas de problème et qu'il allait nous soutenir. Voilà, j'ai fini. Merci. Umberto prend la parole. Merci beaucoup, Alberto. Est-ce que vous voulez poser une question? Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Raïtme prend la parole. J'ai une question portant sur les événements qui sont destinés à la communauté. Nous devons nous focaliser pour éviter des problèmes qui ont eu lieu dans le passé. Nous devons travailler ensemble, en commun. Et je pense que comme il existe une alternative ici, qui serait de demander à des experts d'Amérique centrale ou des Caraïbes d'organiser des conférences avec des experts appartenant à différents domaines, des conférences en face à face pour que tout le monde y participe, y se sente vraiment impliqué. Et nous excusons, mais le son est très mauvais, dit l'interprète de espagnol. Merci. Alberto Soto prend la parole. Merci, Raïmé. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ces cours ou ces conférences seront faites par les ALS de manière volontaire. Hein. Nous ne pouvons pas obliger quelqu'un à donner un cours, un expert à donner un cours s'il ne le veut pas. Et ces cours doivent être donnés à l'université, dans des organisations professionnelles de différents types. Et les gens pourront participer assister à ces cours. Mais nous voulons que ces endroits avec lesquels nous ne travaillons pas et nous n'avons aucun contact, comment pouvoir être présent dans ces endroits. Il y a des endroits, par exemple, en Amérique latine où les gens se connectent sur Internet. Ce sont des gens qui n'ont pas d'ordinateur chez eux, qui n'ont même pas, des fois, l'électricité. Et ces endroits-là, nous pouvons les exploiter pour entrer en contact avec ces gens-là. Nous pouvons organiser quelque chose et qui nous permettrait d'entrer en contact avec ce type de personnes. Nous devons nous assurer que notre système ascendant fonctionne. Des parties prenantes dont nous protégeons les intérêts vers les ALS. Chaque ALS doit fournir des cours, doit fournir ce qui lui semble nécessaire et utile pour aider, pour sensibiliser cette partie de la communauté. Sylvia prend la parole. Umberto prend la parole. Alberto prend la parole. Est-ce que je suis toujours connecté, dit Alberto. Umberto répond. Qu'est-ce que vous avez dit en dernier? Je disais que chaque ALS peut organiser ce type d'appel de manière volontaire. Et nous devons faire de la sensibilisation auprès de ces utilisateurs qui n'ont pas de connexion Internet. Nous pouvons utiliser les centres de connexion qui existent en Amérique latine et dans les Caraïbes de façon à ce que les ALS puissent avoir un contact avec ces gens-là et sensibiliser ces gens-là. Cela peut être dans les universités et les collèges et partout où cette communauté peut être présente. C'est la meilleure manière.
Umberto, micro. Merci, Alberto. Je disais que nous allons envoyer un sondage Google afin de voir quand nous pouvons tenir la prochaine conférence. Donc, pour ceux qui se sont présentés bénévoles, vous allez recevoir un mail avec ce sondage. Umberto, au micro. Merci. Maritza, passons maintenant au point suivant de l'ordre du jour. Qui sont les rapports de notre groupe? Maritza prend la parole. Merci, Umberto. Le point suivant sur lequel il faut que nous discutions porte sur les groupes de travail existants. En ce moment, nous avons 6 groupes de travail. Et dans certains cas, nous avons discuté avec les personnes responsables de chaque groupe . Nous devons maintenant donc informer de l'état des lieux, du travail de chacun de ces groupes. Et nous devons voir si nous pourrons consulter la proposition. Donc dans ce délai, les groupes qui n'auront pas reçu le mail pourront s'occuper de nous le réclamer. Nous allons voir cela avec les responsables. Nous allons continuer avec la discussion au sujet du progrès du groupe pour voir si nous pouvons avancer. D'autre part, en ce concernant les données pour les membres de la communauté, nous sommes en contact pour vérifier les données de contact, les coordonnées, et pour mettre à jour notre base de données. Sylvia pourra partager ces informations avec vous. Et nous devons savoir que nous pourrions recevoir des mises à jour pour les personnes qui n'ont pas reçu ce mail. Ils pourront nous contacter d'ici peu. Nous allons essayer de vérifier avec eux si leurs données sont correctes sur notre base de données ou s'il faut les mettre à jour. Voilà tout ce que nous sommes en train de faire. Merci. Merci, Umberto. Umberto Carrasco prend la parole. Merci, Maritza. Je voudrais que nous passions maintenant au dernier point de l'ordre du jour. Et l'état du processus de médiation de l'ACRALO. Nous avons discuté avec le médiateur qui a été sélectionné par le personnel de l'ICANN. Et nous pouvons officiellement dire maintenant que nous avons un contrat qui a été conclu avec ce médiateur pour lancer le processus. La semaine prochaine, nous allons lancer ce processus, mais je dirais qu'il pourrait durer entre 4 et 6 mois. Nous sommes contents avec la décision qui a été prise. Et l'idée est d'essayer de fournir une solution aux problèmes que nous avons dans notre région. Maritza, voudriez-vous ajouter quelque chose? Maritza prend la parole. Non, merci Umberto. Je tenais simplement à dire que nous avons des attentes. Et l'idée et de commencer avec ce processus également en parallèle et d'essayer d'atteindre une décision commune. Comme Umberto l'a dit, on aura un rapport qui sera publié d'ici peu, nous allons avoir des communications formelles pour que tout le monde soit au courant par rapport au processus et le rapport sera donc disponible d'ici peu. Merci. Umberto au micro, merci Marissa. Je ne vois pas de main levée. Et donc, je vous demande à ce point-là si vous avez des sujets divers à discuter. Umberto Carrasco prend la parole. Bien. Ne voyant pas de main levée, pas de commentaires ou questions. Marissa au micro. Pardon, Umberto, mais Raidme demande la parole. Umberto prend la parole. Bien, Raidme, allez-y. Raidme prend la parole. Je voudrais vous poser une question. Il nous manque toujours la clarification concernant les centres de participation à distance pour la prochaine réunion de l'ICAN. Au départ, on nous avait informé qu'il n'y aurait pas de centre de participation à distance en raison de la nature ou du type de cette réunion. En attendant à avoir les informations officielles, je voudrais faire un commentaire qui porte sur la plateforme d'éducation de l'ICAN. J'ai eu l'occasion de prendre certains des cours qui sont disponibles en anglais et en espagnol, et il me semble que ces cours pourraient être complétés par le groupe de travail de renforcement de capacité à travers les propositions des utilisateurs finaux. L'idée est que ces cours fournis pour les différentes institutions ou pour la société civile soient orientés ou ciblés sur la plateforme en ligne avec le soutien des différentes organisations. Si cela vous semble une bonne idée de travailler ensemble, d'avoir le soutien de l'équipe de formation en ligne pour travailler ensemble et pour former ou élaborer, créer ce type de cours, faites-le moi savoir et je vous enverrai un lien qui contient une idée d'un cours concernant l'IPv6. Donc, envoyez-moi les informations sur la liste si vous voulez avoir ce document. Umberto prend la parole. Merci, Raid. Mais je vois sur le chat qu'il y a une question de Alberto concernant le programme. Bien, nous avons un programme préliminaire, mais nous n'allons pas discuter de cela, vu que le groupe de travail de la médiation devrait officialiser l'annonce. Et une fois que nous aurons ces informations disponibles, nous allons les partager avec toute la communauté. D'une part, cela. D'autre part, Maritza, pourriez-vous contacter Christian Cassas pour parler avec lui du groupe de travail? Maritza prend la parole. D'accord, Umberto, j'en prends note. Umberto au micro. Merci, Maritza. Ne voyons pas d'autres questions ou d'autres commentaires. Il est 8h27 au Chili et 9h27 ailleurs dans le continent. Donc je vais maintenant conclure notre appel. Merci d'avoir participé. Merci, la réunion est maintenant ajournée. Au revoir et merci d'avoir participé. Rappelez-vous de déconnecter les lignes et ayez une bonne fin de journée.